un peu de mal à prendre vraiment toute l'ampleur de ce qui se passe, mais on va essayer de mieux comprendre à travers une histoire un peu abracadabrande ce conflit et cette invasion de l'Ukraine par les forces de Vladimir Poutine. Je vous présente Eliezer Shcherbatov, qui est un hockeyeur montréalais, qui gagnait sa vie dans la Ligue A d'Ukraine, une ligue professionnelle de hockey, la ligue la plus forte, la Ligue 1 en Ukraine, avec l'équipe de Mariupol. Donc, désolé pour les fois, depuis le début de l'émission, je vous ai dit, il s'alignait pour l'équipe de Kiev. C'est faux, il s'alignait pour Mariupol. Et bon, Élie, bienvenue. Merci d'être là à court avis comme ça. Jet lag, puisque tu es rentré cette nuit d'Ukraine.
Oui, cette nuit.
On va essayer de commencer par... on va commencer par la fin, puis on va recaler jusqu'au commencement ensuite. Comment t'es parvenu à sortir de là? Puis qu'est-ce que t'as fait comme trajet là, en avion pour rentrer à Montréal?
On jouait à l'extérieur, dans la ville de Kramatorsk, où il y a les bases militaires encore dans la Donetsk Oblast, à peu près... C'est dans le nord de Mariupol, mais c'est encore la base où ce que... qui se font attaquer du côté est de la Russie.
Ville portuaire par
c'est
laquelle
ça.
Les forces
c'est
russes
deux,
sont
des deux côtés.
Okay. Donc, vous étiez dans le nerf de la guerre. Là,
dans le nerf de la guerre. J'étais pas à Kiev. À 5 heures du matin, là, on joue le lendemain, je suis à l'hôtel. À 5 heures du matin, t'entends « boum ». Tout le monde se réveille. C'est pas un boum maintenant, c'est un boum où que tout tremble.
Okay.
Je vois dans la fenêtre une grosse lumière qui va vers toi. Puis ça fait pouf. Je commence à stresser, tout le monde se réveille. T'entends un autre boum. Là, tu comprends que c'est pas une joke. On arrive au breakfast, puis l'entraîneur dit la guerre a commencé. Je vous suggère de rester ici, sinon c'est à votre gré, vous pouvez partir. Mais on peut pas partir. Tu peux pas. À gauche, à droite, c'est les Russes. À gauche, c'est les Ukrainiens. Puis c'est des tanks, puis c'est des militaires. Il y a plus place à aller. J'ai pas dormi pendant 3 jours parce que tu peux pas dormir. Monsieur Lajoie, c'est impossible de dormir parce que tu penses que tu vas pas te réveiller. C'est littéralement la guerre. C'est pas deux personnes avec des guns dehors, c'est des milliers de soldats. Il y avait un train 2 jours après qui passait par cette ville-là jusqu'à Lvov, où ce que l'ambassade israélienne m'attendait, parce que l'ambassade canadienne a absolument rien fait pour ces personnes. J'étais un Canadien, citoyen canadien, en plein milieu de la guerre.
Pardon?
En plein milieu de la guerre en Ukraine, j'ai appelé, j'ai écrit un email.
Le courriel qu'on voit à l'écran actuellement, là, ça, c'est toi qui as écrit ça à l'ambassade canadienne.
Oui. J'ai reçu un copy-paste email qui me dit « Go to a bomb shelter. Va dans un abri anti-bombe. » Si je serais allé dans un abri anti-bombe à Kramatorsk, je serais encore sans eau, sans manger, sans rien, en attendant de mourir. Parce que... Le building peut s'écrouler sur toi. Tu peux être enterré vivant. Quelqu'un peut ouvrir le bomb shelter, lancer une grenade dedans. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Le fait que j'aie aucune aide du gouvernement canadien, je suis extrêmement déçu.
Et qui a volé à ton secours finalement?
C'est les Israéliens.
Okay.
J'ai mon passeport israélien.
Comment ça s'est passé? T'as envoyé à peu près le même type de courriel?
Non, c'est « on m'a appelé moi ».
OK.
On m'a appelé moi à cause des connexions. On m'a mis en contact avec les personnes qui nous attendent à Lvov.
Donc, les communications cellulaires fonctionnaient tant bien que mal encore
mais
un peu.
Ça a arrêté. Il y a quelques jours, ça a arrêté.
Ouais. Ils ont shoté down aussi Facebook,
oui,
Twitter,
tous les
réseaux sociaux.
Les lumières, je suis parti à temps. C'était le seul train qui passait de Druzhkovka à Lvov, mais ça passait à travers Kharkov, où c'était la guerre, Kiev, où c'était la guerre.
Donc, il y avait un danger sur le train aussi. Mais ça, ce train-là, là, j'imagine qu'il ne devait pas avoir de la place bien pour tout le monde là-dedans. Là.
Monsieur Lajoie, j'appelle ce train-là le train de la mort. Parce que 20 minutes, mon train était arrivé en retard de 4 heures. Et 2 heures avant que le train arrive, on reçoit un appel qui dit « Les trains se font les fins se font mitrailler. » Et un des gars qui était supposé aller avec moi, il me dit « Je n'y vais pas. » C'est 50-50, on dit, c'est une personne de l'armée qui dit « C'est 50-50 que vous survivez ou vous mourrez dans le train. » C'était le plus long 24 heures de ma vie que j'ai passé dans le train. Tu sais pas, surtout quand t'arrivais à Kharkov et à Kiev, tu savais pas si tu survivais. Puis merci bon Dieu que j'arrivais à le voir où ce qu'on m'attendait. Puis on m'a envoyé en autobus avec 17 autres Israéliens ou descendants juifs jusqu'aux borders de Pologne. Et on m'a mis responsable des 17 personnes, parce qu'il n'y a aucune personne de l'ambassade qui venait. Il fallait qu'ils restent. On m'a mis responsable de jeunes enfants, des femmes et trois personnes âgées. Il fallait que je les amène.
Passer la frontière.
J'étais responsable de eux.
Et c'est à partir de la Pologne que tu as pu prendre un vol?
Oui. Okay. On est arrivé à Warsaw, mais c'était un autre chemin qui était extrêmement difficile à faire. On voulait nous séparer, puis c'est des jours d'attente avant avant de passer la frontière ukrainienne. Des jours d'attente dehors, dans le froid, où ce que les gens entendent avec le feu. Puis c'est très important de savoir, d'avoir une bonne communication avec les gens qui étaient là, les gens de l'armée. J'ai communiqué avec eux, j'ai montré mon passeport israélien. Il fallait qu'on reste ensemble, puis encore, toutes les étoiles se sont alignées pour qu'on passe, puis tout le monde sain et sauf, les 17 personnes qui étaient dans le bus. Je les considère comme les personnes de ma famille maintenant.
Et là, le vol de la Pologne t'amène où exactement? Vous amène où? Vous volez de la Pologne vers où? C'est pas un vol direct, là?
Non. Les gens, ils se sont éparpillés. Okay. Ils étaient dans le bus où qu'il fallait aller. Okay. Moi, mon vol était de Warsaw à Toronto et Toronto à Toronto-Montréal. Oui.
Quand tu atterris à Toronto, ta première réaction?
J'étais de même, puis là, je suis rendu normal là, un peu. Là.
Mais tu trembles encore un peu.
Je suis rendu correct. Là. Je suis mieux.
Tu es un père de famille, Eliezer, mais tu étais seul là-bas. Là.
Oui.
OK.
Oui.
Heureusement.
Absolument. Ça aurait été un autre discours. J'ai pas rencontré ma fille, je la connais, mais mon fils qui est né il y a 3 mois, je ne l'avais pas rencontré.
Pardon? OK, t'es parti jouer là-bas oui, alors que ton épouse allait donner naissance à votre deuxième enfant.
Oui, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue avec moi.
Puis elle n'est pas allée là-bas pour donner naissance ici.
Parce qu'au Canada, c'est des...
Heureusement.
On a notre docteur, on a tout ça. J'aime mieux qu'il reste à Montréal.
C'est un peu un double miracle, là, finalement. Là.
Absolument, oui, absolument. Ouais, c'est double. Puis là, je rencontre mon petit gars aujourd'hui, je l'ai rencontré.
Formidable. La question que je me pose, au moment où le premier boom à 5h30 du matin, alors que vous êtes à l'hôtel, toute l'équipe, tu le sais à ce moment-là que le contexte qu'il y aura la guerre, visiblement, est-ce que c'est parce que on n'y croit pas vraiment, naïvement? Est-ce que c'est parce qu'on se dit, mais non, Poutine ne fera jamais ça, ça va se régler, puis tout ça? Ma question, en fait, c'est pourquoi tu n'as pas pris tes jambes à ton cou une semaine ou 2 semaines avant ça, sachant que ça s'en venait, pour dire, moi, je sors d'ici, là?
Oui, c'est une bonne question, M. Lajoie. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui écrit, mais vous deviez partir il y a longtemps. C'est une chose vivre à l'extérieur, mais c'est une autre chose vivre à l'intérieur du pays. Il n'y avait pas de problème dans le pays. Les Russes, les Ukrainiens habitaient normalement ensemble. Le propriétaire de notre ligue, qui avait évacué la première fois les joueurs, qui a absolument rien fait cette fois-ci, il nous a rien dit. Il était supposé dire s'il y avait quelque chose qui allait arriver. Puis il allait nous évacuer avant que ça commence. On ne le savait pas, nous. On disait, non, c'est tout est correct, tout va être beau. C'est impossible que quelqu'un savait qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Puis qui disait, ah oh non, restez là.
Mais non.
Non, personne. personne ne le savait. Tout le monde disait, c'est correct, il ne va pas avoir de problème, c'est des menaces, c'est normal, Poutine, il fait souvent ça.
Et là, tu es parti, comme on dit chez nous, là, en souliers. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as tout laissé derrière toi là-bas, là. Argent, bijoux, ordinateur personnel. Tu n'as pas pu rien amener de tout. Ça. Là. Il n'y avait absolument pas moyen de rien amener. Là.
Absolument tout. Je pouvais pas amener quelque chose. C'est une question de vie ou de mort. C'est sans discussion, c'est une question de vie ou de mort. Tu peux pas penser à l'argent maintenant. Tu peux pas penser à tes cartes de crédit, tes bijoux ou quoi que ce soit.
Sors de là.
Laptop. J'ai mon backpack, mais j'avais rien dans le backpack.
Seulement ton passeport, dans le fond, pour dire...
Mais encore, merci bon Dieu que j'avais mes passeports avec moi. Parce que je voyage que seulement dans le pays.
Je comprends.
Mais j'avais mes passeports avec moi.
Est-ce que ça change ta perception de la vie?
Absolument, monsieur Lajoie, parce que les personnes au bon moment, les personnes qui étaient là pour me sauver, m'ont aidé maintenant, quand j'en avais besoin, maintenant. Et c'est ça ma perception. C'est pas demain je vais le faire. Si quelqu'un a besoin d'aide, c'est maintenant qu'il faut l'aider. Puis ça, c'est quelque chose que ça va rester avec moi toute ma vie. Si quelqu'un a besoin d'aide, je vais être là. Il y avait des personnes dans le train, deux jeunes filles de 19 ans. Il me restait 2000 zloty. C'est le seul argent qu'il y avait. Puis pas de carte de crédit. J'avais littéralement plus rien. Mais ces deux jeunes filles-là avaient pas rien à manger. Ils étaient dans le train. On était toutes pognées. J'ai laissé ma place. Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous avez quelque chose? Il dit non, on a rien, on n'a pas mangé, puis ils ont encore beaucoup de route. Ils sont sûrement encore en Ukraine. Je leur ai donné le reste de mon argent. J'ai dit, prenez, vous avez besoin de plus que moi. C'est quand tu as besoin d'aide, si quelqu'un a besoin d'aide, aidez-les. Aidez-les, absolument.
Est-ce que est-ce qu'il est trop tôt ou tu peux, t'es en mesure de dire aujourd'hui que tu aimerais rejouer au hockey un jour?
Pendant que ça arrivait, je me suis dit, j'arrête les voyagements, j'arrête. Mais là, quelques heures passent, plus je passe, comme je change ma perception, je me dis, au contraire, c'est littéralement, tu sais pas quand tu vas mourir. Ça peut arriver d'une seconde à l'autre. Moi, je l'ai vécu, c'est une seconde à l'autre.
Le fameux boom, hein?
Après le boom, c'est pas les trois jours. C'est une seconde à l'autre. Tu peux pas dormir. C'est chaque seconde, c'est une victoire. Comme je vous ai dit, il faut au contraire vivre le plus possible. Puis moi, j'aime le hockey. J'ai toujours aimé le hockey. J'ai fait ça depuis j'ai 6 ans. Puis je vais continuer à le faire jusqu'à tant que je peux.
Permets-moi de détendre l'atmosphère en terminant, mais les Lions de Trois-Rivières, ça pourrait être le fun, un peu d'autobus, puis hein? Mine de rien, là.
Si je peux jouer au Canada, si je peux jouer proche de ma famille, je vais le faire. Je vais le faire. J'ai essayé d'aller avec le Rocket de Laval. Si je peux aller avec le Trois-Rivières, je vais le faire. Rendu là, je vais le faire. Si je peux rester proche de ma famille, mais je veux jouer au hockey. Mais...
Ouais. Prends le temps de bien te remettre. J'apprécie tellement ta présence avec nous ce soir, le courage que tu as affiché, cette détermination hors du commun, cette grande générosité aussi qui t'honore. Et je ferme les yeux et j'imagine aisément, alors que tu as tes enfants dans tes bras, ainsi que ta douce, et tout est bien qui finit bien dans ton cas. C'est une belle histoire, puis ça fait des belles choses à raconter. Juste du bon pour la suite. Merci sincèrement pour ce partage-là, Eliezer. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.